raconte. Christophe Ondelatte.
Quand un mari ou un compagnon est violent, on sait à quel point il est compliqué de porter plainte. Mais quand il est gendarme, c'est encore plus compliqué. Voici l'histoire d'Alizée Bernard, qui sera là tout à l'heure, tirée de son livre coécrit avec Sophie Boutboul, qui paraît chez Grasset. Silence, on cogne. Il lui a fallu surmonter beaucoup d'obstacles pour faire condamner son compagnon gendarme. Je l'ai écrit avec l'aide de Simon Veil, la réalisation est de Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Nos regards se croisent pour la première fois durant l'hiver 2005, dans une boîte de nuit. J'ai 18 ans et lui 15 de plus. Il me parle à l'oreille, il me fait rire. À un moment, nos mains se frôlent. Et à la fin de la soirée, je pourrais avoir ton numéro ? Non, pas maintenant. La différence d'âge ? Moi, je vis encore chez mes parents, et lui, il est en instance de divorce, et il a déjà un enfant. Franchement, je ne vois pas ce qu'on a en commun. Pendant un mois, il revient souvent dans cette boîte de nuit. T'accepterais de passer une soirée avec moi ? C'est charmant, tous ces efforts qu'il fait. Et puis, il me plaît bien. Alors, je finis par céder, et début 2006, nous dînons tous les deux. Je me souviens, il fait très froid, je suis collé au chauffage du restaurant. La soirée est agréable, mais on est trop différents. Je suis lycéenne, je passe mon bac, et lui, il est gendarme et papa. Cela dit, on a aussi des points communs. Et petit à petit, je tombe amoureuse. La première fois que je vais chez lui, à la caserne, j'ai l'impression d'entrer dans un petit village clôturé. Je gare ma voiture sur le parking visiteur, premier poste de garde, puis second. Vous pouvez me donner votre nom, prénom, carte d'identité, numéro d'immatriculation, s'il vous plaît, merci. Et dans le hall, une plaque émaillée. Les chiens sont autorisés, les femmes sont tolérées. Bah, t'inquiète pas, c'est comme ça dans tous les bâtiments. Quelques temps plus tard, il m'invite à passer une semaine à la caserne. Il vient me chercher chez moi, et moi, je ne veux pas qu'il rencontre mes parents pour l'instant. Donc je lui ai demandé de m'attendre dans la voiture. Je suis en train de terminer ma valise à l'étage. Je l'entends qui frappe à la porte.
Ah bonjour madame, je suis un ami de votre fille. Vous inquiétez pas, hein. Je vais faire attention à elle.
C'est trop tôt, ça me gêne. Mais je l'aime, je l'admire. Et pour lui. Je suis la plus belle, la plus intelligente, la femme de sa vie, la huitième merveille du monde. Son premier déplacement, pour une mission de renfort et de maintien de l'ordre, dure un mois. Il m'envoie des messages tous les jours. Et si je sors avec des amis, il s'inquiète. Alors pour le rassurer, je ne mets plus le nez dehors jusqu'à son retour. En septembre 2006, moi je démarre un BTS. Je dors dans son appartement de plus en plus souvent et je finis par m'installer chez lui. Et là il m'explique les usages de la vie en caserne, les règles officieuses.
C'est une petite communauté, tu vois, ici. Bah, il faut dire bonjour à tous ceux qu'on croise. Mais pas trop parler aux femmes, hein, qui se regroupent en bas avec les enfants. Tu verras, ce sont des commères. Elles font beaucoup d'histoires. Hein. Elles sont capables de semer la cisanie dans notre couple. Hein. Avec les hommes aussi, tu discutes pas trop. Hein. Sinon, tu vas vite avoir une réputation d'allumeuse.
À part ça, on ne ferme jamais la porte chez nous. On ne risque rien. Et puis, les cloisons sont maigrelettes. On entend tout ce que font les voisins. Quand ils déjeunent, quand ils vont aux toilettes, quand ils mettent en marche leur sèche-linge. Il faut faire avec. Au printemps 2008, je le rejoins en Martinique où il est en mission. Et le jour de mon départ pour Paris, parce que soi-disant il veut profiter de moi le plus longtemps possible, il m'emmène à l'aéroport au dernier moment, en voiture de gendarme, avec le gyrophare. Je trouve ça bizarre. il fait ce qu'il veut. Il est censé faire respecter la loi, il ne la respecte pas. Et en même temps, je me dis, c'est pas trop grave. Au début de l'été, on est en voiture, l'air est doux. Je baisse la vitre côté passager. Depuis quelque temps, il y a quelque chose que je ne supporte pas. Il continue de voir une de ses ex. Non mais tu comprends, je peux plus vivre avec une autre femme, enfin, qui est si présente dans notre couple. Je peux plus. Si ça continue, je te quitte. Et là, bam ! Coup de poing sur ma joue gauche. Je suis ébloui, sonné. Arrête-toi ! Je veux descendre de la voiture. J'ouvre la portière. Je me laisse tomber dans le fossé. C'est la première fois qu'un homme me frappe. Je suis complètement paumé. Je sors mon téléphone. Je veux appeler un taxi, mais je sais même pas où je suis. Il se gare plus loin. Il revient vers moi. Je suis désolé. Je m'excuse. Allez, remonte dans la voiture. C'est dangereux de rester sur le bord d'une route toute seule. Je remonte. Allez, c'est bon, calme-toi, t'as rien. Si. J'ai mal. Amène-moi à l'hôpital. Je t'amène chez le médecin de la caserne. Le docteur en question ne peut rien faire pour moi. Alors il rédige un courrier pour les urgences de l'hôpital. Et à l'hôpital, moi je ne peux pas parler. C'est lui qui parle. Je suis gendarme, là, à la caserne d'à côté. J'entraînais ma compagne à la boxe pour lui apprendre des techniques de combat. Elle s'est mal protégée. Elle a mal monté sa garde. Elle a pris un mauvais coup. Ils s'y reprennent à plusieurs fois pour remettre ma mâchoire en place. Je ne peux plus ouvrir la bouche. Un certificat médical atteste que j'aurai des problèmes d'élocution pendant 21 jours. 3 semaines. Et demain j'ai l'oral d'anglais de mon PTS. On rentre à la maison. Il file acheter des médicaments et faire des courses. Il revient avec des parfums.
J'en veux pas de tes parfums. Je suis pas à vendre.
Il s'excuse. Il s'effondre. Il pleure.
Mais t'es la femme de ma vie, putain. Je t'aime trop. J'ai pas voulu te faire mal.
Je lui dis que je ne peux pas rester avec un homme violent. Je lui dis, tu recommenceras. Tu me fais peur. Et lui promet que ça ne recommencera pas, qu'il va prendre sur lui. Est-ce que c'est le fait qu'on habite en caserne qui me retient de partir? Je reste. Je le crois. Je l'aime aussi. J'ai passé mon examen sans pouvoir ouvrir la bouche. Je leur ai montré mon certificat médical pourtant. Lui, il l'avait jeté à la poubelle. Je l'avais récupéré. Et pourtant, adieu mon diplôme. On m'a proposé un poste de chargé de clientèle dans une grande ville. Il ne veut pas. Il a peur que je rencontre trop de monde, que je me fasse draguer.
Ben, je sais pas, trouve quelque chose. Je sais pas, plus près de chez nous, quoi. Qu'on pense à la famille qu'on veut construire.
Il règne sur mon existence, désormais. Il ne veut plus que je fume non plus. Il veut que je fasse du sport. Et moi, je n'ai pas encore compris la puissance d'un uniforme. Il a recommencé, bien sûr. À coup de claque, je me suis retrouvé bloqué entre le canapé et la table basse. Les voisins ont entendu, sans doute. Il n'a pas l'air très inquiet.
Ah ! Tu sais, à la caserne, beaucoup d'hommes frappent leurs femmes.
Et puis, il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit « Tu es la femme de ma vie ». Il m'a dit « Je t'aime trop, c'est pour ça que je te frappe ». Il m'a expliqué qu'il avait du mal à gérer son travail, qu'il avait beaucoup de pression, qu'il allait quitter la gendarmerie mobile. Et moi, je me suis raccroché au fait qu'il m'aimait. Je suis enceinte. Je suis heureuse.
Ah ben dis donc, qu'est-ce que t'es grosse? Qu'est-ce que c'est moche une femme enceinte?
il a recommencé. Je ne suis pas d'accord avec lui. Bim ! Il me frappe. Il a recommencé encore sur la tombe de ma grand-mère. Je sais pas, il a dû trouver que je me recueillais trop. Il m'a pris par les cheveux. Il m'a traîné sur le gravier, sur plusieurs mètres. Notre fils est né. Je suis au lit, je l'allaite. Il regarde un film d'action à la télé.
Tu peux baisser un peu ?
Bim !
Oh, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire.
Une autre fois, il me frappe. Je lui dis,
je vais te quitter. Je vais aller à la gendarmerie dire ce qui se passe.
Ah ouais ? Moi, je pense qu'ils me croiront, moi. Hein ? Quoi qu'il arrive, j'ai 16 ans de gendarmerie, je te rappelle. Et je suis assermenté. Je suis piégé. À la fin de mon congé maternité, je ne reprends pas le travail. Ça m'isole encore plus. En 2013, j'appelle pour la première fois le 3919. Mais j'ai trop peur qu'il l'apprenne, alors j'en reste là. Cette année-là, je découvre aussi qu'il a des maîtresses. Je le lui dis, il me roue de coups. Et là, je rappelle le 3919.
Madame, je vais vous donner un conseil. Recueillez des preuves, hein. Le plus de preuves possible.
À partir de là, je me mets à l'enregistrer avec mon téléphone quand il m'agresse. En février, devant toute ma famille, il me demande en mariage. Devant les autres, je joue le jeu. Mais quand on est en tête à tête, je lui dis non. Non ! Je suis pas un chien à qui on balance un sucre pour lui faire plaisir. Le samedi 16 avril 2016, énième dispute. Heurté par un coup de pied, je tombe sur la poubelle de la cuisine. J'essaye de me relever. Je n'y arrive pas. Et là, il me soulève en me tenant par le cou. Il me bloque la tête et le buste contre l'évier. Il a un couteau dans sa main droite. Un couteau. Je sens la lame froide sur le haut de mon crâne et son autre main qui m'étrangle.
Je vais te buter.
À ce moment-là, j'entends notre fils de 5 ans à l'étage. Qu'est-ce qui va arriver s'il me retrouve en sang dans la cuisine? Il finit par desserrer ses mains.
T'es malade? T'es complètement malade? Il faut que tu t'en ailles. C'est plus possible de vivre comme ça. Je vais appeler la gendarmerie. Ça peut plus continuer comme ça. Arrête. T'es encore en vie. Ça va. Et puis va le prouver. Hein? Va le prouver, ma vieille, que je t'ai menacé avec un couteau. T'as une marque? T'es coupé? Tu saignes? Non. Alors t'as qu'à les appeler? Et puis moi, je dirais que c'est toi qui m'as menacé avec un couteau, hein? Je dirais que t'es folle.
J'ai appelé la gendarmerie. Je leur ai dit que je ne voulais pas d'intervention, que je voulais juste qu'ils gardent une trace de mon appel et que je lancerai une procédure après le week-end. 2 heures après, j'entends des voitures arriver dans notre impasse, je regarde par la fenêtre. C'est la gendarmerie. 8 gendarmes. Il frappe, c'est lui qui le rouvre.
Coucou, entrez, je vous en prie. C'est la miss qui vous a appelé. Vous voulez boire quelque chose?
2 gendarmes s'isolent avec moi. Je leur raconte tout. Le couteau, l'étranglement, les insultes. Je leur dis que j'ai un enregistrement de tout ça. Enregistrement dans lequel il reconnaît qu'il m'a étranglé et menacé avec un couteau. Et de toute façon, il voit bien les rougeurs sur mon cou. Une demi-heure plus tard.
Bon, madame, il a trouvé un endroit pour dormir.
Il n'est pas placé en garde à vue. Je n'y crois pas. Je suis sans voix.
On vous auditionnera demain, ok? Je vous appellerai demain matin pour vous dire à quelle heure. S'il revient, vous nous appelez, bien sûr.
Quand Ils sont partis. Je me barricade dans la maison. J'ai peur qu'ils reviennent dans la nuit. Je m'assois sur une chaise dans le salon face à l'entrée. Je fixe le portail avec un couteau à portée de main et une gazeuse. Le lendemain, j'arrive à la gendarmerie, je tremble. Je m'installe dans la salle d'attente. Et là, il arrive. Et il s'assoit en face de moi.
T'es une belle salope, hein, d'avoir fait des enregistrements.
Comment? Comment tu sais ça, toi?
Pas de réponse. Pourquoi ils m'ont donné cette information? Qui est à l'origine de cette fuite? Ils veulent le protéger? Il est interrogé par le directeur d'enquête, et moi par une gendarme, dans un bureau étroit. Et régulièrement, le directeur d'enquête vient prendre connaissance de mes déclarations.
Vous voulez porter plainte, madame?
Je ne sais pas encore. Il faut que j'en parle avec ma famille, je veux être sûr d'avoir leur soutien.
Vous savez, madame, il risque de perdre son travail. Le mieux serait sans doute d'en rester là, non? Vous vous séparez, vous faites les choses intelligemment pour votre fils et...
Vous voulez porter plainte alors? Je peux prendre un peu de temps pour réfléchir. Je vous recontacte demain, c'est possible?
Et là, ils impriment le procès verbal. Je le relis. Il n'est pas mentionné qu'il a utilisé un couteau. J'insiste pour que ce soit écrit noir sur blanc. Il l'ajoute. Je signe. Le gendarme s'isole avec moi.
Il faut que vous vous concentriez sur le bien-être de votre fils, madame, non?
Séparez-vous proprement. Vendez la maison. Je sais pas, refaites votre vie.
Quand on arrive à la maison, il me tend un papier qu'il a dans la main. C'est une composition pénale qui consiste en une amende de 250 euros.
Tu vois, je m'en sors le cul propre, hein, grâce à mon pote.
Je suis allé voir mes parents. Je vais déposer plainte. Le lendemain, j'appelle le chef d'enquête pour le lui dire.
Ah mais ça n'est pas possible, madame, hein. Le procureur s'est déjà positionné. Il sera convoqué dans quelques semaines.
Je peux peut-être porter plainte, je sais pas moi, pour les autres faits de violence. Je suis allé aux urgences plusieurs fois.
Ah non, madame, non. Non, ça c'est pas possible non plus, hein. Votre procès verbal englobe tout, madame.
Mais j'ai pas parlé tout hier.
C'est comme ça, madame.
J'éclate en sanglots. Refuser une plainte, c'est illégal. Mais ça, je ne le sais pas. Et j'apprendrai plus tard qu'ils auraient dû me rappeler 48 heures après pour me redemander si je voulais porter plainte. Ils ne l'ont pas fait. Deux semaines plus tard, je suis en rendez-vous avec mon avocate. Il m'appelle, il me laisse un message.
Heureusement que je connais du monde, hein. Je vais m'arranger. Alors là, me fais pas de coups, hein, parce que là, ça va vraiment mal se passer.
Je fais écouter l'enregistrement à mon avocate.
Là, vous allez tout de suite porter plainte, hein. Et surtout, vous faites bien une plainte, hein. Pas un renseignement judiciaire, pas une main courante.
Et si on me refuse? C'est impossible qu'on vous refuse.
Et pourtant, à la gendarmerie, ils refusent. Et ils appellent devant moi la brigade où je suis allé le jour du couteau. Et j'entends tout.
Allô? Ouais, aidez-moi, j'ai Madame Bernard devant moi, là. Elle veut déposer plainte. Tu connais le monsieur, hein?
Oui, je le connais. Écoute, prends un renseignement judiciaire, hein. Surtout pas une plainte.
Il m'a donc imposé un renseignement judiciaire, ce qu'on appelle une main courante, qui a ensuite totalement disparu de la base informatique de la gendarmerie. Toutes les brigades et tous les commissariats de police ont l'obligation de recevoir les plaintes. Mais moi, on m'a tout refusé. Jusqu'à ce que je rencontre une avocate, Nathalie Tomasini. Elle a appelé.
Vous ne pouvez pas lui refuser une audition, hein. Non, monsieur, non, non. C'est la loi. La loi du 15 juin 2000, monsieur. Demain, qu'on soit clair, hein. Elle viendra déposer une plainte, hein. D'accord.
L'accueil des gendarmes a été correct. On a repris toute la chronologie des faits depuis le premier coup de poing. Ils m'ont donné un récépissé de ma plainte et une convocation pour une unité médico-judiciaire. Tout ce qui aurait dû être fait il y a 2 mois. En octobre 2016, on me confronte à lui dans un poste de police. On ne se regarde pas.
Vous vous rendez compte, monsieur, que vous avez utilisé des techniques de combat sur votre compagne? J'ai rien fait du tout. Elle a aucune preuve de tout ça. Elle s'est fait ça d'elle-même.
Il nie tout ce pourquoi je n'ai pas fait de certificat médical. Il ne sait pas que j'ai des enregistrements et que je les ai fait retranscrire. Je les donne à la policière et je sors de cette confrontation épuisé. Son procès a lieu le 27 janvier 2017. Il est jugé pour 4 mois de violence seulement, alors que dans ma plainte, j'ai raconté 8 mois de coups. Le juge n'a retenu que les périodes au cours desquelles je suis allé aux urgences. Quand il arrive, il rigole. Il a l'air détendu. Moi, je suis au bord de l'implosion. Comment fait-il pour être aussi serein? Des gens passent, il les salue. Il semble connaître du monde au tribunal. Il est interrogé à la barre.
Je suis conscient de mon problème. Mon problème, c'est mon agressivité. C'est le stress. Et le stress, on l'évacue de plusieurs façons. Et disons que pour moi, c'est physique, quoi.
J'aurais tellement aimé qu'ils disent « C'est vrai, j'ai pété un câble, elle a subi, je suis désolé, qu'il ait une once de remords, quoi. » Mon avocate l'interroge.
Vous avez des titres en sport, n'est-ce pas, monsieur?
Ouais.
Je pratique des sports de combat depuis que je suis adolescent. Vous devez parfaitement savoir maîtriser vos coups avec toutes vos médailles. Mais non, hein. Vous êtes monsieur Hulk. Une petite pitchenette et clac, fracture du nez. Vous avez des états de service excellents, monsieur. Des médailles d'honneur, des certificats en karaté. Vous avez plein d'atouts pour défendre la veuve et l'orphelin. Et vous? Eh bien vous avez employé cette force pour vous en servir contre une femme qui fait la moitié de votre taille et de votre poids, et en utilisant votre fils comme un outil d'intimidation.
Il est condamné à 6 mois de prison avec sursis, plus 18 mois de mise à l'épreuve et une obligation de soins. Il doit aussi me verser 2000 euros au titre des souffrances endurées. Mais ça ne sera pas écrit au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire. Il pourra continuer à travailler. C'est un traitement de faveur parce que quelqu'un qui fait un excès de vitesse, on lui retire son permis même s'il doit aller travailler tous les jours. Eh bien lui, on l'a épargné. Voilà pour votre histoire, Alizé, tirée directement du livre que vous publiez chez Grasset avec Sophie Boutboul, « Silence, on cogne ». Alors vous écrivez dans le livre que vous ne comptez pas en rester là, qu'il manque 4 mois de coups que vous avez subis, qui n'ont pas fait l'objet de procès à ce jour, et notamment cette menace de vous tuer à coups de couteau. Menace d'ailleurs pour laquelle vous détenez un enregistrement. Est-ce que vous avez avancé là-dessus?
Alors en fait, je compte pas forcément lancer une démarche, enfin des poursuites juridiques à son encontre. C'est contre surtout les gendarmes qui ont été défaillants dans ma prise en charge, dans mes différentes prises en charge.
Vous êtes lancé dans du lourd là.
Je me suis lancé dans du lourd.
Vous attaquez à l'institution.
Oui, j'ai déposé cette plainte l'année dernière et donc devant le procureur de la République. Et cette année, au mois de septembre, il a classé sans suite cette plainte.
Mmh. Donc vous pouvez vous constituer partie civile?
Je me constitue partie civile devant le doyen des juges d'instruction.
C'est risqué. Si vous n'y arrivez pas, vous devrez payer.
Oui.
Votre avocat vous l'a dit?
Oui. Mmh.
Il y a notamment, par exemple, cette main courante qui a disparu de l'ordinateur de la gendarmerie. Une bonne expertise informatique faite par un bon labo devrait la retrouver.
Alors, en fait, elle était déguisée. C'est que moi, j'ai véritablement eu, sur le moment, la sensation de déposer plainte. Parce que c'est bien écrit noir sur blanc, je dépose plainte pour les faits mentionnés ci-dessous.
Ouais.
Sauf que, en réalité, la façon dont le document est constitué, ce petit encadré qu'il y a en bas du document, montre que c'est un renseignement judiciaire.
Mais lui-même a disparu, ce renseignement judiciaire.
Ah oui, dans la base de données. Moi, j'ai une copie de ce document,
oui,
que j'ai fourni donc à l'inspection générale de la gendarmerie nationale.
Oui.
Et en effet, l'enquête administrative prouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus de traces de ce document.
Ça va être dur de faire condamner la gendarmerie pour la négligence. Vous faites la même démarche que ceux qui attaquent le cardinal Barbarin dans sa ville de Lyon parce qu'il a couvert un curé pédophile. C'est-à-dire, c'est très dur d'atteindre le haut.
Oui.
De la pyramide.
Tout à fait.
Alors, quand vous le rencontrez, au tout début, il est en instance de divorce. Est-ce que vous savez aujourd'hui s'il a déjà été violent avec sa compagne précédente, qui était en l'occurrence sa femme ?
Non, j'ai pas eu plus d'infos que ça, et c'est pas des choses que, sur lesquelles il se serait penché, ou des confidences qu'il aurait pu me faire au début de notre rencontre.
Vous savez d'où lui vient cette violence, qu'il ne semble pas contrôler, puisqu'il la regrette juste après ?
Je sais pas. C'est quelqu'un de sain, en fait. À la base, c'est quelqu'un qui fait du sport, qui ne fume pas, qui ne boit pas. Donc, il ne se drogue pas non plus. Donc, il n'y a même pas de facteur extérieur qui pourrait finalement engendrer ce type de violence. Mais
il a été battu lui-même ?
Non.
Il n'a pas cherché à raconter ça devant le tribunal, en tout cas.
Non, du tout.
Alors, le premier coup de poing, c'est là que se trouve au fond le nœud de votre histoire, parce que il vous fracasse la mâchoire, ce qui vous empêche d'obtenir votre BTS. C'est la première fois, dites-vous, qu'un homme vous frappe. Vous avez 18 ans en même temps, donc assez peu d'expérience des hommes. Et c'est à ce moment-là qu'il faut partir.
Oui.
Qu'il aurait fallu partir. Et comme explication, vous dites « je l'aime ».
Oui.
Et ça doit bien vous travailler, ça.
Tout à fait.
D'aimer un homme qui vous frappe.
Bah sur le moment, j'y crois vraiment quand il me dit « je suis désolée », qu'il se met à pleurer, « je recommencerai plus »,« t'es la femme de ma vie », c'est quelque chose qui vous prend aux tripes. Au final, vous vous dites « bon, bah, il est conscient de ce qu'il a fait, il le regrette ».
Il le refera pas.
Il le refera pas.
Donc c'est la deuxième fois qu'il faut partir.
Oui, ça devrait être la deuxième fois, en effet.
Et la deuxième fois, vous dites « je me suis raccroché au fait qu'il m'aimait ». Vous étiez en dépendance d'amour, en fait.
Possible.
C'est un truc où vous attendiez que quelqu'un vous aime totalement, entièrement, et c'est le piège qui s'est refermé sur vous, en fait, puisque c'était lui.
Je sais pas véritablement comment ça se met en place. C'est que on a traversé des choses ensemble, et pour moi, il évoque des faits, des choses qui se passent dans sa vie pour justifier ce qui se produit.
Le stress du boulot.
Le stress du boulot, le stress de ce qui peut se passer.
Le maintien de l'ordre, il est garde mobile, hein, donc c'est
gendarme mobile.
Gendarme mobile, donc c'est quelqu'un qui, par exemple, intervient sur des manifestations.
Oui.
Voilà. Et donc il évoque ça.
Pas que ça, aussi ce qui peut se passer au niveau familial, mais c'est une excuse, en fait. Il n'y a pas d'excuse au fait de frapper sa compagne.
Mmh.
Et sur le moment, je l'entends. Et comme c'est pas quelque chose de régulier, de coutumier, c'est pas tous les jours. C'est pareil, on parle des violences conjugales, mais on parle pas finalement du fait que à partir du moment où il y a même qu'un seul coup, on est victime de violences conjugales.
Mais ce que les gens peineront toujours à comprendre, et je suis sûr que, typiquement, vos parents ont dû en parler des heures avec vous, c'est pourquoi t'es pas parti la première fois, pourquoi tu nous en as pas parlé la première fois. Vous en parlez à une copine à un moment.
Oui.
Alexandra, dans mon souvenir.
Tout à fait.
Je l'ai pas évoqué dans le récit. Et vous lui dites pas tout, hein, d'ailleurs. Vous lui dites pas qu'il recommence.
Oui, enfin, elle est là le lendemain de du coup au niveau de la mâchoire. Et donc, je lui dis clairement que c'est un coup, c'est un fait de violence et que c'était pas du tout lié à la boxe ou quoi que ce soit. Enfin, ce qu'il avait pu lui exposer comme excuse. Et après, pour les autres faits de violence, non, je lui en parle pas.
Et à vos parents, jamais.
Mes parents, jamais.
Parce qu'au moment où il est question de porter plainte et où vous tergiversez, ce qui est une erreur. Vous auriez dû évidemment porter plainte le jour même, parce que ce jour-là, il pouvait pas vous la refuser. Et le lendemain, il trouve un échappatoire. Vous dites, il faut que je m'assure que mes parents vont me soutenir. Je sais pas, je les connais pas, vos parents, mais j'ai une sorte d'intuition qu'ils vont vous soutenir, évidemment.
Alors, soutenir, oui, mais c'est surtout que j'étais dans une situation précaire à ce moment-là également. Ouais. J'étais en licenciement économique, j'avais repris mes études, et se lancer dans des procédures, ça coûte extrêmement cher. Mmh. Donc j'avais besoin de leur soutien et moral, physique et financier.
Ouais. Il faut qu'on en vienne donc au fait qu'il est gendarme et que, sans doute, ça change pas mal la donne. Je n'ai pas compris, écrivez-vous, la puissance d'un uniforme. C'est-à-dire que vous-même, au fond, le fait qu'il ait un uniforme vous impressionne.
C'est surtout les menaces qui sont associées aux violences qui m'impressionnent. Et sur le moment, je pensais pas qu'on pouvait finalement le laisser dans une impunité totale en étant auteur de violences conjugales. Mmh.
Alors, il y a un moment où il vous dit, et on se demande si les voisins ont entendu, hein, la fois où il vous balance contre la table basse, et il vous dit, à la caserne, il y a beaucoup de gendarmes qui frappent leurs femmes. Est-ce que c'est vrai ?
Ah oui, c'est ce qu'il m'a dit. Après, j'avais pas de contact avec les autres femmes à la caserne, j'ai suivi les règles, donc je ne sais pas, au final, si véritablement il y en avait d'autres qui étaient victimes de violences conjugales. J'en ai pas entendu, mais je pense que ce soir-là, on m'a entendu, par contre. Oui.
Vous êtes sûr qu'on vous a entendu ?
Ah, persuadé.
On entend tout.
On entend tout, donc forcément, le bruit, les claques et les cris ont fait que les voisins ont entendu.
Le fait que des gendarmes, qui sont censés défendre donc le droit, la veuve et l'orphelin, dites-vous, battent leur femme, c'est lié à quoi, d'après vous ? Est-ce que c'est lié à un sentiment d'impunité ? C'est-à-dire, ils peuvent le faire, ils sont à peu près certains qu'il leur arrivera rien. Ou pas ?
Non, je pense pas. Je pense que, véritablement, la difficulté dans le fait qu'ils soient gendarmes, c'est surtout quand on cherche à déposer plainte. Je pense pas que ce soit un facteur, pour être violent avec sa compagne. Il y a des gendarmes et des policiers qui sont très bien. Ouais. Tous ne sont pas comme ça, quand même.
Ouais. Ça n'est pas lié au fait qu'ils savent qu'il leur arrivera rien. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, face à la question des violences conjugales, un certain nombre de gens disent il faudrait durcir les sanctions et il faudrait les incarcérer tout de suite. C'est-à-dire les écarter de manière à ce qu'ils ne puissent pas revenir et frapper à nouveau. Et en fait, quand on regarde l'histoire du crime, on n'a jamais mis autant de gens en prison en France et le crime ne baisse pas pour autant. C'est-à-dire... Il n'est pas certain que la menace d'une sanction empêche les gens de frapper. Quand il frappe, il le dit, je suis en stress, et c'est physiquement que ça s'exprime. Et donc là, il n'y a pas la raison. Il réfléchit pas. Il dit pas, oulala, je risque de me faire avoir.
Non, du tout.
Vous décrivez très bien, évidemment, la relation de corps, de corporatisme qu'il y a dans la gendarmerie, qu'on peut sans doute d'ailleurs rapprocher, je sais pas, de la manière dont les évêques ont protégé les curés, dont les proviseurs de lycées ont protégé les profs, dont les hommes politiques ont protégé les hommes politiques pendant des années. C'est assez humain. Ce sont des corps très solidaires.
C'est assez humain, mais en même temps, c'est gravissime. Et voilà. Je pense notamment au cas qu'on évoque dans la partie enquête du livre, de Karine, 24 ans, qui a été tuée par son ex-compagnon de 3 balles dans la tête, devant son fils.
Et donc, il était, lui, policier.
Policier, et il l'a tuée avec son arme de service. Elle avait déposé plainte, elle avait signalé les faits, elle avait appelé le 17, donc ils n'étaient plus ensemble, et pourtant, quand la gendarmerie à l'époque est intervenue, ils lui ont donné une tape sur l'épaule en lui disant qu'on ne te revoit plus ici. Enfin, là, c'est même l'esprit de corps, c'est même entre la police et la gendarmerie, simplement parce qu'ils sont représentants de la loi. Clair.
Parce qu'il y aurait une solution, c'est que quand on veut accuser un gendarme, on aille à la police, et quand on veut accuser un policier, on aille à la gendarmerie. Et parce qu'on sait qu'il y a la guerre des polices entre eux. Mais non.
Mais non, parce qu'en plus, l'enquête ne va pas forcément être au profit de l'autre corps de métier. Enfin, c'est pour la police quand c'est un gendarme ou la gendarmerie quand c'est un policier. Ça peut revenir aussi sur le secteur et traité par les gendarmes directement. Donc aujourd'hui, c'est pas forcément... Il n'y a pas de certitude dans le fait d'aller déposer plainte justement en commissariat ou en brigade à l'inverse. Ni même devant le procureur de la République, puisque l'enquête après doit être menée et donc est redonnée aux enquêteurs.
Les gendarmes sont des militaires, alors ça change un peu la donne quand même, parce que il y a chez les militaires quelque chose qui relève de l'énorme solidarité, presque de la fraternité, de principe quand même. Vous l'avez ressenti, ça ?
Ah oui, moi, j'ai beaucoup entendu, on est des frères d'armes.
Oui.
Donc oui, je l'ai ressenti.
Et lui, il était très comme ça ?
Ah oui, oui, oui. Très, très engagé auprès de ses collègues. C'est une famille, au final. Ouais. C'est une grande famille.
Ils bossent beaucoup, tous ?
Beaucoup, oui.
Ouais. Et ils sont tout le temps ensemble, entre mecs ?
Tout à fait. Ils passent énormément d'heures ensemble.
Notamment les gendarmes mobiles.
Oui. Hmm.
Quand ils partent en Martinique, ils partent tous ensemble.
Oui.
Ils se racontent toute leur vie.
Ah oui, c'est la famille.
Les maîtresses, ils sont tous au courant.
Ah oui.
Merci en tout cas, Lise, d'avoir accepté de me confier votre histoire. Je renvoie donc à ce livre qui a la vertu de partir de cas précis et d'élargir et de rendre compte d'un vrai phénomène dont personne n'avait jamais parlé, qui sont donc les coups portés par des gendarmes et des policiers sur leurs femmes, sujet jamais évoqué. Ce livre s'appelle « Silence, on cogne ». Il paraît chez Grasset. Il est signé donc Alizée Bernard et Sophie Boutboul.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.